Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Myrtille et Alain Arnaud. Alain Arnaud, c'est ce chef d'entreprise qui, il y a 2 ans, s'est lancé dans une activité complémentaire qui a fini par devenir son activité principale, à savoir la création, fabrication et la commercialisation d'un jeu qui s'appelle le Koubi, un jeu en bois made in Diwa. Bonjour Myrtille, bonjour Alain.
Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors c'est super de revenir 2 ans après, parce que tu t'es venu en décembre 2012, tu nous avais présenté ces projets qui en étaient à l'époque à ses premiers balbutiements. Où en es-tu de ce projet justement en ce moment ?
Eh bien le projet continue, et là cette année, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, j'ai rencontré un vif succès lors d'un salon professionnel. Le gros salon professionnel du jeu qui se situe à Nuremberg en Allemagne, donc tous les ans au mois de janvier. Et j'ai eu énormément de contacts, à la fois de fabricants, mais surtout de revendeurs, de magasins, de kindergarten, qui sont des écoles pour enfants dans le Nord. Et puis aussi des ventes en ligne, sur des sites, enfin différentes choses. Et là, j'ai pas pu finaliser toutes ces ventes parce que j'y allais aussi pour trouver des nouveaux fabricants pour pouvoir baisser mon coût de fabrication.
Alors un petit rappel de ce qu'est le Koubi quand même.
Oui, effectivement. Donc, alors Koubi, c'est un jeu en bois fabriqué en hêtre. Ce sont des cubes et des bâtons. Alors les cubes, ils font 40 mm de côté et ils sont percés au centre, dans lequel vient s'emboîter des petits bâtonnets qui font environ 12 cm de long. Et du coup, en emboîtant un cube, un bâton, un cube, un bâton, on arrive à faire des structures immenses en fonction du nombre de pièces qu'on a. Si on a vraiment beaucoup de pièces, on peut faire un château fort qui remplit la pièce, ou une girafe de 4 mètres de haut. Il n'y a pas de limite. Voilà. La limite, c'est la taille de la pièce.
Et si tu fais ça en extérieur ?
Alors là, il n'y a plus aucune limite. La limite, ce sera le budget, peut-être.
Ce ne sont que des cubes. Tu n'as pas pensé à faire des pentaèdres ou des octogones afin de faire en sorte que tes tiges puissent partir de travers ou à 45 degrés ou...
Alors ça, c'est une grande question et c'est un choix de base. En fait, dans l'idée du jeu que je propose, soit on reste sur des pièces le plus simple possible et ce n'est que l'imagination qui va faire qu'on va réussir à faire des structures relativement cubiques, bon, même si on peut faire des diagonales quand même, mais relativement cubiques, qui vont faire travailler l'imagination. Ou alors, effectivement, je rajoute des pièces en perçant dans les angles des cubes, etc. Où là, on pourrait faire toutes sortes d'angles et de tétraèdres, de tout ce qu'on veut, de triangles. Mais du coup, le jeu va tourner autour de ces pièces-là. Et ce sera un jeu beaucoup moins inventif. Ce sera, on fonctionnera plus à partir de modèles ou de choses comme ça. Et pour l'instant, je n'ai pas fait ce choix-là. Et je n'en ai pas envie. Je préfère rester sur un jeu simple, à l'instar de Kapla, par exemple, où il n'y a qu'une seule pièce. Et avec cette pièce, on imagine et on construit des choses.
Ceci dit, donc, tu me dis que tu peux faire des diagonales, mais comment ?
En fait, sur le bâton, le cube il s'articule. S'il n'y a qu'une seule prise sur le cube, on peut le tourner dans un sens ou dans un autre. À partir de là, on peut démarrer dans une autre direction. Ça reste flou.
Je ne vois pas comment. Si tu as un trou par face de carré, ça ne peut aller que de façon carrée, en fait.
On imagine un cube posé sur la table. Sur lequel on met un bâtonnet qui remonte vers le haut, sur lequel on remet un cube. Mais le cube, on peut l'orienter, on peut le tourner dans la direction que l'on veut. Du coup, on n'est pas obligé de rester sur une base carrée, on peut partir dans une base en diagonale.
Ah oui, très bien, ça y est, je percute. Alors, je me rappelle d'avoir vu une démonstration d'un siège sur lequel on pouvait s'asseoir.
Oui, d'ailleurs, c'est rigolo que tu poses cette question parce que ce matin, on a construit un fauteuil, un grand fauteuil en Kubi, sur lequel on va faire une petite vidéo avec deux, trois petits mots. Donc là, je ne peux pas en dire plus parce que ça va sortir dans 15 jours sur YouTube. C'est histoire de faire un petit buzz, c'est un petit truc rigolo. Donc je ne peux pas en dire plus. Mais effectivement, on peut très bien faire des sièges, des fauteuils, des tables sur lesquelles on peut s'asseoir, sur lesquelles on peut monter, parce que le jeu est très costaud en fait. Il est, quand on le voit, on comprend tout de suite, mais c'est vrai que les cubes font 40 mm de côté, les bâtonnets ils font 14 mm d'épaisseur. C'est donc très costaud. On peut facilement monter dessus et déplacer l'objet sans qu'il se casse.
L'emboîtement est parfaitement adéquat de telle manière à ce que ça rentre, mais ça ne soit pas complètement difficile à enlever.
Voilà, c'est le principe.
Tu n'as pas besoin de coller, d'ailleurs tu ne le colles rien, sinon
non.
C'est...
Voilà, c'est ça.
Alors, justement, on a une cobaye ici présente, à savoir ta fille Myrtille. Qu'est-ce que t'en penses, Myrtille, de Kubi, alors ?
Bah, que c'est super.
Raconte-nous un petit peu ce que tu as pu faire comme objet grâce au Kubi.
Ben, j'ai construit un robot, et après j'ai pu déguiser avec des tissus. Et puis sinon, bah, on a fait une maison, une grande maison avec papa, avec une porte qui s'ouvre, et on pouvait rentrer dedans. On l'a fait deux fois.
Une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que tu avais mis des charnières sur les carrés ?
Non, il y avait des bâtons qui roulaient, et du coup, ça, on ouvrait la porte comme ça, et du coup, enfin, on l'ouvrait la porte naturellement, et puis on pouvait rentrer dedans.
Alors, depuis que ton père s'est lancé, donc il y a à peu près un peu plus de deux ans, dans ce Kubi, tu as pu expérimenter et tester ce jeu. Est-ce que tu joues souvent avec ? Est-ce que tu t'en es lassé, par exemple ?
Ben, pas trop, parce que je joue avec mes jeux. Et puis, ben, quand on va à des salons, ben, j'y joue avec, pour montrer l'exemple. Et sinon, à l'école, j'ai amené des sacs de Kubi, j'y joue avec. Voilà.
Donc, tu es fier de ton papa, alors qu'il a inventé ça ?
Ouais.
Je suppose donc que, en fait, la créativité est un peu comme le Kapla, etc., limitée au nombre de pièces que tu vends par module.
Voilà, ouais, tout à fait. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai trois modules de base qui sont de 110, 190 et 550 pièces. Donc, c'est vrai qu'avec 110 pièces, bon, sur le module de base, on peut déjà faire quelques petites choses. Bon, par exemple, une chaise sur laquelle on peut s'asseoir. Et la chaise, elle est quasiment de la taille d'une chaise normale pour donner un peu le volume du sac. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 110 pièces, déjà, on peut vite atteindre des volumes assez grands, assez volumineux. Donc, c'est conséquent. Et effectivement, plus on veut construire, plus il faut de sacs et de... C'est évident, quoi. J'ai beaucoup fourni dans des ludothèques. Et les ludothèques, en général, me prennent plutôt des big bags de 550 pièces. Sachant qu'un sac permet à un enfant de jouer, un gros sac permet à 5 ou 6 enfants de jouer. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai mis aussi en vente. Alors, là, j'ai plus de stock, c'est arrêté, mais ça va reprendre. J'ai mis en vente, par contre, des bâtons de taille différente, des bâtons plus grands. Alors, pourquoi ? Parce que ça paraissait évident et simple de mettre des bâtons plus grands qui permettent de faire, pour le coup, des très grands volumes. Donc là, il faut vraiment avoir de l'espace, mais ça permet, sur un jeu de base, de multiplier le volume par 3. Donc tout de suite, c'est très conséquent et puis bon, c'est aussi parce que ça permet de varier un petit peu le jeu, quoi.
Alors, tu parlais de ludothèque. Je me rappelle déjà à l'époque, il y a deux ans, tu avais entrepris de démarcher des clients de cet acabit. Ça a bien fonctionné auprès d'eux ?
Voilà, oui, ça a bien marché. Alors la difficulté que moi j'ai rencontrée pendant les deux ans, là, c'est de se faire connaître. Donc c'est pas simple. Le marché du jeu, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup, enfin comme dans n'importe quel marché, je suppose, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de faire en sorte que ce qu'ils proposent fonctionne. Du coup, il faut vraiment aller voir les gens, démarcher, rentrer dans un réseau ne suffit pas forcément. Du coup, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et pour le coup, aussi, il faut voir les moyens en termes de temps et en termes de finances pour le faire. Donc ce que je n'avais pas trop. Du coup, j'ai eu un très bon retour. Mais je me suis vite rendu compte que si je voulais que le jeu y décolle et rencontre un plus large public, il fallait que je passe à une autre dimension que juste le démarchage dans quelques salons du jeu pour tout public. Et il fallait que je passe j'aille voir d'autres réseaux. D'où l'idée d'aller faire ce salon à Nuremberg.
dans lequel tu m'avais contacté, je me rappelle, pour éventuellement trouver quelqu'un pour t'épauler, car tu étais parti tout seul. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si tu avais trouvé quelqu'un pour t'épauler.
Alors, en fait, à la base, on devait partir à quatre. Et puis, les gens avec qui je devais partir ont du travail, n'ont pas pu se libérer. Donc, on est parti à deux personnes, sachant qu'aucun de nous deux ne parlait anglais. Sur un salon en Allemagne, international, c'était un peu difficile au niveau de la relation. Et j'avais une troisième personne qui, au dernier moment, j'ai trouvé une jeune femme qui était bilingue, en plus qui était dans le commerce, et au dernier moment, deux jours avant, qui a trouvé du travail et n'a pas pu venir. Donc on s'est retrouvés à deux dans ce salon sans parler anglais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où moi, je veux vendre quelque chose et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui veut me l'acheter, la langue n'est pas un problème.
Tu procédais avec beaucoup de gestes ?
Alors, beaucoup de gestes et un téléphone où il y a un traducteur, ça aide beaucoup. Voilà.
Je me rappelle, dans cette interview, que je crois que c'est moi qui l'avais fait en 2012, on parlait déjà de soucis de fabrication. Alors, tu étais auparavant un chef d'entreprise, tu es sensible à ce genre de considération. Pour bien vendre un produit et avoir une marge, il faut trouver le bon fournisseur. Et je sais qu'à l'époque, tu te renseignais pour savoir comment faire pour fabriquer ce Kubi en France. Mais ce n'était pas si facile que ça. Tu avais été voir des marchands des manches à balai.
Oui. En fait, là, aujourd'hui, donc, je fais fabriquer les cubes d'un côté, les bâtonnets de l'autre. Et effectivement, pour les bâtonnets, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui soit capable de me le faire dans des coûts relativement raisonnables pour moi. Et j'ai effectivement contacté quelqu'un qui fabrique des manches à balai, qui se trouve dans les Landes, j'ai plus le nom exact, et qui me fournit aujourd'hui les bâtonnets. Et effectivement, à la base, il fabrique des manches à balai, des manques de pelle, etc. Donc ça marche plutôt bien. Mais de toute façon, donc là je fabrique en France, les cubes ils sont fabriqués dans le Jura. Mais je fabrique aujourd'hui avec un prix de vente qui ne me permet pas de dégager de bénéfices. C'est-à-dire que moi, je crois très fort en ce jeu, je vois que j'ai un super retour, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je suis limité en France parce que je ne fais pas de bénéfices et forcément, ce n'est pas viable à long terme. Alors, le temps de lancer le jeu et puis de voir que ça fonctionne, c'est une première étape qui était intéressante. Mais là, il faut vraiment que je fasse maintenant le choix de trouver une entreprise qui me le fabrique à un coût raisonnable pour que moi, derrière, je puisse avoir une marge et pouvoir le vendre correctement. Voire même pouvoir le vendre en magasin qui ont souvent tendance à faire x2 sur le produit. C'est-à-dire qu'un produit qui est vendu 50 euros en magasin, il faut que je leur vende 25. Et là, j'en suis très, très loin.
Alors, t'en es où tes recherches du fournisseur idéal ?
Alors, le fournisseur idéal, je crois que je ne vais pas le trouver parce que le fournisseur idéal, pour moi, ça aurait été de rester fabriqué en France, voire même j'avais contacté des CAT. Mais tout ce que j'ai, tous les retours que j'ai eus, c'est de toute façon des prix qui sont les prix français, qui sont justes, mais qui ne me permettent pas, moi, de pouvoir vendre en France à un prix où je peux faire du bénéfice. Donc, j'ai fait le choix d'aller chercher un petit peu à l'étranger. Donc, pour ça, le salon de Nuremberg a été très intéressant. J'ai contacté, ou on m'a contacté, en tout cas, pour une dizaine d'entreprises de par le monde. Et des premiers retours que j'ai, là, il y en a quatre qui sortent du lot, qui sont une entreprise en Russie, en Inde, en Tchéquie et en Espagne. Alors, elles sont toutes quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, effectivement, le plus intéressant en termes de coût et de qualité, c'est l'Inde, au vu des pièces que j'ai en retour. J'attends des pièces en retour de l'Espagne et je suis très impressionné parce qu'ils ont un coût qui est un poil plus élevé et vraiment très intéressant. En fait, je me heurte à des questions éthiques un petit peu. Parce que moi, je viens quand même du secteur de l'écologie et je voudrais réduire les distances. Aller fabriquer jusqu'en Inde ou en Russie, c'est un peu loin. Et là, je suis content d'avoir trouvé quelque chose qui pourrait peut-être se faire en Espagne. Parce que même si c'est un poil plus cher, ça reste relativement local. C'est vraiment des questions fortes parce que moi, il faut que je puisse en vivre de ce produit. T'imagines bien que diminuer par deux le coût de production pour pouvoir vendre à des magasins, c'est un peu drastique, quoi. Il faut que je cours partout pour faire baisser les coûts. Là aujourd'hui, je n'ai pas fait le choix encore. J'ai encore un mois pour faire mon choix.
Il y a ça ou alors augmenter les volumes produits ?
Alors là, alors dans tous les cas, oui, bien sûr, tu as raison, mais je parle bien de gros volumes déjà.
C'est-à-dire ?
Sur les demandes que j'ai faites là, c'est sur une première production de 1000 jeux. Donc sur une première production de 1000 jeux, j'ai des prix qui sont, aujourd'hui, je fais fabriquer en France pour un coût total de 22 euros. Enfin, j'enlève les centimes. Si je passe en Inde, je suis à 11 euros livrés. Et si je passe en Espagne, je suis à 11,80 euros non livrés. Voilà. Donc sur des grosses quantités. Donc je divise par deux. Donc à partir de là, ça veut dire que moi, je peux vendre à un magasin autour de 25 euros sans problème. Voilà. Et donc du coup, j'ai accès à la distribution, à des chaînes de magasins, à des ventes en ligne, enfin, etc. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, quoi.
Ça, c'était pour le bâtonnet. Et alors pour le carré percé de 1, 2, 3, il y en a combien ? 6 trous.
Oui. Donc le cube, il est aujourd'hui toujours fabriqué dans le Jura. Donc ça tend à changer, pareil, parce que là, le fabricant me ferait l'ensemble. Hein. Il me ferait à la fois les cubes et les bâtonnets. C'est l'ensemble du jeu qui serait fabriqué au même endroit. Ce qui me garantirait une cohésion entre le bâtonnet et le cube, enfin un parfait emboîtement, quoi. Quelque chose qui fonctionnerait et qui serait facilement vérifiable à chaque production. ça m'embête un petit peu parce que de quitter le Jura, parce que à la base, donc la tournerie Cornu avec qui je travaille jusqu'à maintenant, c'est quand même quelqu'un qui m'a suivi. On a fait des essais ensemble, on a essayé de trouver le passage, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, si je dois continuer avec lui, je ferme boutique. Je peux pas continuer. Enfin, ça n'a jamais été très viable, mais là, maintenant que j'ai passé la période des essais et puis de mon entourage, si je veux passer à une autre dimension, je n'ai pas le choix. Alors, comment faire ? Aujourd'hui, je réfléchis à comment faire pour continuer avec eux. Parce que j'ai pas envie de les lâcher, j'ai pas envie de les abandonner. J'ai quand même, on a une histoire ensemble, mais j'ai pas trouvé. Je me dis, est-ce que peut-être faire des boîtes un petit peu à part, avec un design particulier, un dessin sur les cubes, ou une grosseur particulière.
Une version premium.
Voilà, c'est ça. Bon, il y a quelque chose à trouver qui ferait que je continuerai un peu avec eux. Voilà. Et parce qu'à un moment donné, il faudra que j'aille les voir et que je leur dise, ben non, stop, je vais arrêter. Donc, qu'est-ce que je peux proposer en échange ? Voilà. Bon, là, aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse.
Parce que, est-ce qu'on trouve du hêtre en Inde ? Petite question. Et pourquoi est-ce du hêtre ? Deuxième question.
Alors, pourquoi du hêtre ? Alors, est-ce qu'on trouve du hêtre en Inde ? Oui, on trouve du hêtre en Inde. Il y a des forêts de hêtre là où c'est produit. Et puis, pourquoi du hêtre ? Parce que sur les différents essais de bois qu'on a fait, on s'est rapidement rendu compte que le hêtre, c'est un bois qui ne s'effiloche pas. Il n'y a pas d'écli de bois. Et puis, il y a une culture du jeu en France qui est autour du hêtre. Et dans le Jura, principalement, où les jeux en France sont fabriqués, les jeux en bois, ils sont fabriqués en hêtre. Voilà. Donc, ça paraissait assez simple de partir sur du hêtre.
Et ça doit être suffisamment solide pour qu'on puisse s'asseoir sur cette fameuse chaise.
Voilà, tout à fait, exactement.
Une fois que tu auras, peut-être incessamment sous peu, réglé ces problèmes de fournisseurs de tes bâtonnets et autres cubes, ça ne se limite pas là. Je suppose que dans ton package, tu fournis un bel emballage, un mode d'emploi. C'est un produit complet que tu vends, soit des ludothèques, soit des particuliers. Y a-t-il encore d'autres éléments de ton jeu qui restent à solutionner ou est-ce que ça y est, tout est bien en place, ton mode opérationnel ? Mode de production, je veux dire.
Tout est en place, tout est calé. Donc, il fallait que je réponde à cette première question-là en ce moment qui était quel fournisseur, quel fabricant je choisis. Donc là, c'est d'ici la fin du mois, la décision sera prise. Le packaging, l'emballage, c'est dans des sacs en toile de jute et en coton. Et là, ça fonctionne très très bien. Il y a un super retour sur le produit, complètement naturel. Donc ça ne bougera pas. Des choses qui vont être en plus, c'est un jeu de cartes qui est un jeu de cartes à jouer avec Kubi où il y a des dessins dessus et on doit les reproduire en forme de duel ou simplement seul, où il y a des petites énigmes aussi. Enfin, c'est un petit jeu de cartes à jouer. Et puis, il va y avoir pour septembre un petit livret avec des dessins pour faire des reproductions. Voilà. Donc ça va être en plus et ça va être dans les sacs. Donc, tout ce qui est de l'ordre du produit sur les différentes tailles, c'est calé. Là, maintenant... Mmh. J'ai fait le tour un petit peu des transporteurs. Il y en a un que j'ai choisi pour voir sur quelle quantité je dois livrer et où je dois livrer. Et à partir du mois d'avril, je dois relancer tous les contacts que j'ai eus sur Nuremberg, qui d'ailleurs, j'aurais pas trop de mal parce qu'ils me renvoient des mails très souvent. Je suis pas assailli, mais pas loin de mails d'un petit peu partout. C'est très chouette hein, de recevoir un mail de Lettonie, du Japon, là, qui, un mail du Japon qui me disait « Mais moi, vous vous souvenez, on s'est vu à Nuremberg, j'ai 300 magasins et je veux être votre vendeur pour le Japon, je veux avoir l'exclusivité. » Voilà. Donc, c'est des mecs comme ça, ça met un peu pas la pression, mais en tout cas, le baume au cœur me dit « Bon, c'est chouette, ça fonctionne, il ne faut pas que je rate, moi, cette transition de prix, parce qu'une fois que j'aurai choisi le fabricant, il faut... Et c'est là le plus difficile, peut-être, c'est avoir le juste prix. C'est-à-dire que moi, je dois faire une marge, mais il faut qu'elle soit suffisamment basse pour que cette personne qui veut revendre après derrière puisse me l'acheter et faire sa marge à lui aussi. Voilà. Donc ça, il y a un petit passage à trouver. Et puis à partir de là, les commandes sont envoyées entre mai et juin. Pour que je puisse fabriquer et livrer en septembre-octobre.
3 mois de délai de fabrication.
J'ai moins que ça, mais je préfère mettre 3 mois. Oui, effectivement, je préfère mettre un petit peu un délai un peu long. De toute façon, d'après les retours que j'ai, mes futurs clients sont intéressés pour avoir les produits pour Noël, pour décembre. Donc d'ici là, voilà, ça me laisse un petit peu de temps.
Il ne faudra pas que tu rates décembre.
Voilà, ça, il faut que je sois tip-top pour décembre. Alors... Moi, c'est nouveau, c'est un boulot qui est complètement nouveau, même si j'ai déjà fait un peu de commercial, pas à cette dimension-là, pas dans ces quantités-là, pas avec des facteurs, pas en parlant anglais, pas à l'étranger. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent dans tous les sens. Alors, ça va bien parce que sans arrêt, j'en parle, je rencontre des gens qui viennent là, qui me donnent un coup de main. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré quelqu'un de Biovallée qui a fait du commerce international, donc avec qui je dois manger là, incessamment sous peu, pour qu'elle m'amène un petit peu plein de réflexions et qu'elle me dise qu'elle ait un peu un regard sur l'endroit où je suis, pour que je ne me trompe pas, quoi, parce qu'effectivement, après, signer des contrats de vente avec l'étranger, enfin, des choses comme ça, moi, je ne suis pas compétent. Aujourd'hui, je ne suis pas compétent.
Oui, j'allais te le dire d'ailleurs, Alain. Toute la partie créative est presque derrière toi. Tu vas bientôt, une fois que tu auras réglé tes derniers problèmes de fournisseur, rentrer dans, non pas la routine, parce que c'est quand même, tu l'as dit, très intéressant. C'est porteur d'avoir tous ces gens qui te courent après presque. Néanmoins, tu vas rentrer dans la vie du chef d'entreprise avec des commandes à honorer, des factures à payer. Enfin, tu connais quand même.
Ouais, ça fait partie du jeu, en fait. Moi, je reconnais que avoir l'idée de quelque chose, le faire naître, le faire vivre, voir que ça fonctionne, il y a un retour public intéressant. En plus, sur les salons, moi, je vois bien, quand je vais sur un salon pour 4 jours, que je déballe les jeux, que les enfants commencent à jouer, que le stand ne désemplit pas jusqu'à la fin, je me dis, OK, c'est génial. Et effectivement, après, il y a la phase où tout se met en place, où ça grandit, où ça fonctionne, bon, c'est tout aussi créatif, c'est tout aussi intéressant, mais effectivement, derrière, il y a de la gestion à faire. Et je ne suis pas sûr que ce soit moi qui le fasse à long terme. Il est tout à fait possible que, si effectivement toutes les commandes que j'ai aujourd'hui sont validées et ça fonctionne, effectivement, il faudra sûrement que j'embauche quelqu'un pour gérer l'ensemble, parce que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui m'intéresse réellement à long terme. Moi, continuer à créer, à faire des salons et faire en sorte que le jeu vive m'intéresse beaucoup. Par contre, toute la partie gestion et comptabilité de l'affaire, bon, je pense que j'ai déjà donné. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de redonner encore une nouvelle fois.
Alors, est-ce que tu as pensé aussi à te protéger? Parce que imagine un peu que des gens tout simplement voient Koubi, se disent « Mais c'est trop facile cette histoire, un petit cube, une bâtonnet. » Est-ce que tu l'as protégé? Est-ce que ça se protège un jeu comme ça? Est-ce que tu n'as pas peur de te faire pomper ton idée?
Alors, oui, effectivement, alors ça se protège par l'OHMI en Europe. Donc moi, j'ai protégé uniquement au niveau de l'Europe. Donc j'ai protégé la marque Koubi. Et puis le modèle, donc la dimension des cubes et des bâtons, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut fabriquer ou vendre en Europe quelque chose qui soit similaire à mon jeu. Par contre, c'est possible en Asie ou en Amérique ou en Afrique. En Europe, il y a un groupement. Donc, on n'a affaire qu'à un seul paiement pour l'Europe entière. Alors que pour les autres pays, pour l'Asie, par exemple, il faut que je protège... Je choisis sur quel pays. Je vais protéger le Japon, je vais protéger la Chine, je vais protéger la Corée. Enfin, mais à chaque fois, je dois payer. Donc, ça a un coût. Donc là, je n'avais pas de toute façon les finances pour imaginer le protéger à l'étranger. Voilà. Alors après, c'est vrai que le retour que j'ai eu, là, notamment en parlant avec des revendeurs sur Nuremberg, ils me disaient qu'à partir du moment où c'est protégé en Europe, ils ne s'amusent pas à faire fabriquer même en Asie, parce qu'un des marchés, c'est quand même l'Europe, un des gros marchés. Donc ils vont préférer être partenaire plutôt qu'être copieur.
Bon, je te le souhaite en tout cas. Il paraît que c'est très désagréable de voir son produit pompé et marcher sur ses propres plates-bandes.
Oui, tout à fait. Bon, après, je ne sais pas quoi dire parce qu'effectivement, j'ai entendu ça. Mais si ça devait se produire, je pourrais lancer un procès. Mais est-ce que j'aurais envie de ça? Je ne crois pas. Enfin, honnêtement, je ne sais pas comment répondre. Là, ce qui est sûr, c'est que... en plus d'avoir mis un brevet, je l'ai mis aux normes aussi. Je suis passé par un bureau d'études qui a testé le jeu. Et le jeu, il est aux normes. Il peut être vendu partout dans le monde. Il n'y a pas de problème. Quoi.
Au niveau des arêtes, voire des produits chimiques qui auraient pu le teinter, non ?
Voilà. Alors, il est complètement naturel. Il n'y a aucun produit dedans. Il n'est même pas lasuré ou ciré ou quoi que ce soit. Effectivement, en fait, ça se joue entre les différentes essences de bois parce que les bâtonnets sont en pin. Donc, il y a le rapport entre le pain et le hêtre, et puis entre ça et l'emballage, entre les écrits sur l'emballage qui sont faits avec de l'encre naturelle, mais avec de l'encre quand même. C'est le rapport entre tout ça et puis le rapport au feu aussi. Voilà. Donc, c'est simplement que, bon, c'est en bois, ça brûlera. Simplement, ça doit être mis aux normes et ça doit être marqué sur le produit. Donc, voilà, maintenant c'est le cas.
Alors, ça fait plus de 2 ans que tu travailles dessus, entre le mettre aux normes, faire des essais, te déplacer pour trouver des fournisseurs, aller à Nuremberg, ça a dû quand même te coûter une somme initiale non négligeable.
Oui, voilà, oui, tout à fait. En fait, je ne pensais pas que ça allait me coûter autant. Là, honnêtement, aujourd'hui, non, c'est vraiment important. J'ai beaucoup investi, peut-être autour de 10 000 euros. Sûrement, j'ai pas le coût exact, plus quelques personnes qui ont aussi mis de l'argent dans cette entreprise-là. Donc ça fait de l'investissement tout ça, mais bon, j'y crois, puis il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, j'ai pas le retour sur investissement. Dans tous les cas, d'où la décision là, depuis 15 jours, de lancer un crowdfunding sur Ulule. Et donc le crowdfunding, qu'est-ce que c'est ? C'est alors en France, moi je connais 2 sites qui sont Ulule et KissKissBankBank. Ce sont des sites où des gens comme moi proposent un projet et on peut sur une page d'accueil du site on peut regarder le projet. Donc c'est très bien détaillé. Il y a des photos, des images. Ça peut être la mise en place d'une bande dessinée, un film. La mise en place d'un café, une épicerie particulière, un jeu en bois. Et puis, sur une colonne à côté, on a, je participe à ce projet à hauteur de 10 euros. Et puis, en échange de ces 10 euros, je recevrai par exemple un badge ou un t-shirt. Ou dans mon cas à moi, je participe à hauteur de ce projet pour 48 euros et en échange, je recevrai un sac de jeux Kubi quand le projet sera fini. En fait, c'est une manière de financer un projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en échange de participation, on a un retour à la hauteur de la participation que l'on donne. Ça veut dire que moi, cette campagne-là, elle est lancée à partir du 21 mars. Elle va durer 45 jours. Pendant 45 jours, les gens ils pourront aller sur le site de Ulule, regarder mon projet. Si ça leur convient, ils cliquent sur la colonne d'à côté. Oui, je participe à ce projet, ça m'intéresse à hauteur de temps. Donc, ils payent en ligne. Et à la fin des 45 jours, si effectivement j'ai atteint mon quota, qui moi est de 9 990 euros, si je l'ai atteint, le projet est validé. Et ça veut dire que les gens recevront en septembre ce qu'ils ont commandé. Si je ne l'ai pas atteint, ils sont remboursés de suite et mon projet n'est pas validé. Voilà. Ça veut dire que j'ai un petit peu la pression pendant 45 jours, où là, il faut effectivement que je fasse déjà beaucoup de pubs, enfin, que je le fasse connaître, et puis que j'en parle beaucoup aux amis autour de moi, au réseau que je connais, et que je demande à mes amis d'en parler à leur propre réseau. Parce qu'effectivement, en 45 jours, il faut que j'atteigne une certaine somme qui, moi, correspond à cette trésorerie que j'ai absolument besoin pour pouvoir passer à cette dernière étape qui est passer à des grosses commandes. Et là, je ne peux pas le faire. J'ai besoin de trésorerie et j'ai besoin de lancer une première production là, très rapidement de 500 jeux pour pouvoir lancer la machine.
Mais c'est très bien que tu passes, parce que nous relayerons sur la page de l'émission un lien direct vers Ulule.
Ah, mais merci, mais ça, c'est très, très chouette. Effectivement, je crois que je vais en avoir besoin.
De toute façon, tu es chef d'entreprise, j'ai fait une école de commerce. C'est vrai que quand tu lances un projet, initialement, tu dépenses de l'argent. Hein. Si on ne mise pas, il n'y a pas de retour. Il y a forcément des frais initiaux. Et d'après les perspectives dont tu parles, il semblerait que ce projet soit quand même bien parti.
Voilà, alors c'est ce que je crois aussi. Maintenant, mon expérience me dit que tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas dans la boîte, je me méfie maintenant. Enfin, je me méfie, je vais doucement. J'ai effectivement tous ces contacts-là qui sont là, qui sont prêts à finaliser leurs commandes. Elles ne sont pas encore finalisées. Tant que ce n'est pas complètement acquis, je me méfie. Mais oui, effectivement, là, dans le tiroir, il y a des grosses commandes en attente. Effectivement, si ces grosses commandes sortent, c'est un jeu qui va exploser.
Qui pourrait déboîter tout.
Qui va déboîter tout, voilà. Qu'on va un peu trouver dans tous les magasins, un petit peu partout. Alors, surtout, enfin, je suis pas tant que ça étonné, mais surtout dans les pays nordiques, en fait. Surtout en Allemagne, en Suède, en Belgique, Finlande, où j'ai eu une très, très grosse demande. Beaucoup plus que sur la France.
As-tu pensé, Alain, à IVDD, je sais plus ce que ça veut dire, c'est... Investir Val-de-Drôme ou je ne sais plus quoi, qui propose des prêts à taux zéro justement lorsqu'on est comme toi en phase d'émergence et donc on a des besoins de financement supérieurs aux rentrées actuelles.
Oui, c'est vrai que j'y avais pensé, mais je n'ai pas très creusé de ce côté-là parce que j'attendais de voir le retour là, par rapport à Nuremberg notamment, de me dire « Ok, ça peut aller plus loin que juste le public que je connais autour de moi et qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau national, international. » Donc effectivement, j'attendais cette phase-là. Et peut-être que là, il faut que je m'y repenche à nouveau sur des aides potentielles de ce style-là. Bon, c'est vrai que je l'avais un petit peu mis de côté, mais bon.
Au cas où le crowdfunding ne fonctionnerait pas, je dis...
Il va marcher. Il n'y a pas de doute.
Hein, il va marcher. Je suis prêt de m'excuser, de douter, encore une fois. Le doute étant l'ennemi.
Voilà. Non, tout à fait. Ça va fonctionner. C'est évident.
Combien tu les vends, alors, tes boîtes de 110, 180 et je ne me rappelle plus combien de pièces?
Alors, de 110 pièces, 190 et 550. Donc, le jeu, aujourd'hui, de 110 pièces, il est vendu 48 euros sur le site. Mmh. Alors, dans les 48 euros, il y a le coût de transport. C'est inclus. Pour le jeu de 190 pièces, il est vendu 75 euros et 220 pour le 550 pièces. À chaque fois, il y a le coût de transport. En fait, quand je fais des salons, le coût il est moindre puisqu'on peut enlever le transport. Alors, c'est un jeu en bois, c'est lourd et le coût de transport est élevé. Et donc là, je suis content parce qu'à partir de 2016, à partir de cette année, j'ai un contrat avec Colissimo et ce qui permet de pouvoir récupérer la TVA et de baisser les coûts. Donc, ils sont un peu moins élevés qu'avant, mais ça reste des coûts quand même très élevés du fait du poids du jeu en bois.
Alors, tu as dit que tu avais un site internet. Qu'est-ce que tu pourrais tout simplement nous rappeler son adresse pour qu'on aille tout de suite?
Mais bien sûr.
Enfin, tout auditeur d'Iwa qui se respecte et qui est fier de ce nouveau jeu Made in Diwa puisse aller commander pour le prochain Noël.
Voilà, donc c'est sur www.koobi.fr, KOOBI.fr.
Alors donc, puisque tu as dit que tu en étais au stade où il fallait absolument que tu sensibilises, que tu convainques les gens de participer à ce crowdfunding, quelles autres opérations de promotion de Koobi mènes-tu parallèlement? En plus du salon de Nuremberg, par exemple.
Alors, en plus du salon de Nuremberg, alors là, il y a la fête du jeu sur Valence, les deux jours de jeu qui se reproduisent tous les deux ans. Donc là, c'est très chouette parce que c'est complètement ouvert et gratuit pour tout le monde. L'espace, il est quand même assez grand. Je n'ai plus le nom de l'espace à Valence, dans le centre, là, pas très loin de la patinoire, près du polygone. Et ça se déroule le premier week-end d'avril, deux jours. Donc là, c'est très chouette. Donc régulièrement, je fais ce genre de salon. Je suis sur Facebook aussi. Bien sûr, où là, on alimente sans arrêt sur les salons les photos qu'on peut avoir en retour de gens qui construisent et autres. Donc Radio Diwa, là. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mais bon, je suis demandeur et rechercheur de toute possibilité pour faire de la com. Et c'est vrai que là, je découvre aussi ça. Et bon, il y a sûrement beaucoup de choses à faire, mais il faut trouver.
Est-ce que tu t'es mise en cheville avec la co-opère de jeu, par exemple ?
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On fonctionne beaucoup ensemble. Ils ont des coubis et avec Marilyn. Régulièrement, on s'est retrouvés sur des salons pour travailler ensemble. Et voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, il va y avoir un article qui va sortir dans Le Dauphiné sur Koubi, ce qui est une bonne chose.
Tout à l'heure, tu as dit que tu t'embringuais pour une première commande de 1000 pièces. Moi, quand tu me parles de 1000 pièces, je trouve pas ça gigantesque, en fait. Est-ce que par la suite, je pense aux innombrables ludothèques, magasins, et même si tu te situes par rapport aux consommateurs, 1000, c'est pas beaucoup.
Effectivement, 1000 pièces, c'est pas beaucoup. Mais c'est juste ce que j'ai besoin, moi, aujourd'hui, pour pouvoir lancer de la trésorerie et faire tout ce que j'ai à faire pour que l'histoire puisse continuer. Aujourd'hui, je ne vais pas tout donner les chiffres parce qu'ils ne sont pas sûrs, mais sur le Japon, ils voulaient fournir pour 300 magasins. En Allemagne, j'ai quelqu'un qui voudrait fournir pour 600 bureaux de vente. En Belgique, j'ai une personne qui m'a contacté pour être le revendeur sur la Belgique et qui voudrait faire le tour de toutes les ludothèques, les écoles, les crèches. Les commandes pour septembre, là, pour l'automne, c'est beaucoup plus que 1000. On est avec d'autres zéros derrière.
Le problème de Koubi, tu m'as dit que c'est solide. Une fois que tu as ton Koubi, peut-être que tu en veux ton deuxième. Mais bon, ça ne s'use pas, donc tu ne pourras pas compter sur un marché de renouvellement, quoi.
Ouais, alors l'idée, elle n'est pas forcément... Moi, je serais très content d'en vivre et d'en vivre bien. Bien au contraire. Et puis, j'ai plein d'autres projets. Après, si à un moment donné, les ventes doivent baisser parce que tout le monde est fourni en Koubi, bah, c'est très bien. On passera à autre chose. Et là, j'ai des idées derrière la tête.
Alain, merci d'être passé. En tout cas, je vois que tu as encore énormément de pain sur la planche et l'excitation du lancement d'une entreprise te motive encore. Je te souhaite d'y arriver. Comme je te le disais sur la page de l'émission, je mettrai un lien direct vers Ulule, voir les coordonnées du site, comme ça on pourra faire des commandes directement. As-tu quelque chose à rajouter ?
Non, je suis très content d'être venu à Radio Diwa, là. C'est très chouette. Moi, c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai absolument pas du tout d'inquiétude sur la suite du projet, parce que de toute façon, c'est déjà parti. C'est vrai que c'est très chouette de faire un financement avec Ulule, parce que c'est du financement participatif, ça évite de passer par les banques, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. D'ailleurs, de toute façon, dans tous les cas, des sites comme Ulule ou KissKissBankBank, ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil, parce qu'il y a tout plein de projets alternatifs et autres qui sont très intéressants, et il y a sûrement chaussures à son pied. Voilà, donc merci à toi Louis, et puis merci à tous ceux qui me soutiennent et puis qui vont me soutenir encore, parce que c'est une très chouette aventure.
Merci Alain, à bientôt.
Merci, au revoir.